Bonjour à tous. Regardez les lunettes, ça peut servir. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de particulier, puisque vous allez dire, il va encore parler des Juifs. Actuellement, Israël est en train de fêter une fête. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un peu partout, ça s'appelle la fête de la lumière. En hébreu, c'est Hanouka. Et je voulais un peu vous en parler parce que si on est greffé sur les mêmes racines, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer de cette fête, un enseignement pour nous, chrétiens, pour nous qui sommes aussi le peuple de Dieu. Et je voulais vous faire un petit résumé de cette fête et quelle est surtout la signification spirituelle de cette fête. Alors on peut commencer par lire dans Jean 10. Jean 10 au verset 22. Jean 10, 22. Je vais la lire dans la version seconde. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Je vais leur dire un peu plus en version hébraïque. On célébrait à Yerushalayim la fête de Hanouka, c'était l'hiver. Yeshua se promenait dans le Beth Amikdash sous le portique de Shlomo. C'est la même chose. La fête de la dédicace, Hanouka. Hanouka vient de l'hébreu ranak, qui veut dire entraîner, dédier, inaugurer, établir. Et Hanouka veut dire dédicacer, mais surtout consacrer, consécration. Une consécration. Et Jésus était là, donc on voit que Jésus respectait cette fête, bien que cette fête ne soit pas une fête biblique proprement dite, ce n'est pas une fête établie par Dieu, une des sept fêtes de l'Éternel. Mais c'est une fête qui a été rajoutée suite à un grand miracle. Alors je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé, parce que nous chrétiens, on ne le sait pas, parce que nos Bibles, il y a 400 ans de silence, entre, je crois que c'était le dernier, c'était Malachie, le prophète Malachie, et l'évangile de Matthieu. On a l'impression qu'il y a eu une pause pendant 400 ans et qu'il ne s'est rien passé en Judée, dans le royaume de Judée. Or, ce n'est pas tout à fait ça. Il s'est passé des choses, et même des choses miraculeuses qui auraient pu être écrites dans la Bible et qui n'a rien à envier au grand récit du roi David ou choses comme ça, ce que vous pouvez lire. Il s'est passé une grande délivrance en l'an 165 à peu près. Si vous voulez le lire, lisez les livres de Maccabée. C'est des livres dits apocryphes, mais qui ne sont pas interdits de lire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans votre Bible que vous ne pouvez pas lire le premier livre et le deuxième livre de Maccabée. Parce qu'il dit des choses très intéressantes, ce livre. Et il dit des choses très intéressantes pour l'époque, bien sûr, vous allez dire, bon, c'était 165 ans avant Jésus-Christ, on s'en fout un peu. Mais Maccabée, c'est aussi, et je vais pour ça que je vais dire pour Hanouka, c'est aussi ce qui va arriver dans les temps à venir. Le récit, une partie des récits des Maccabées est un peu citée, un peu, Jésus l'en parle, dans les temps à venir, en disant, quand vous verrez la désolation, l'abomination de la désolation, fuyez, donc il parlait de Jérusalem, Mais il est parlé aussi d'une chose bien plus future, qui sera l'arrivée de la bête, qui s'assiera dans le temple de Dieu aussi. Mais ça, bon, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que Hanouka ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir qu'en 170 avant Jésus-Christ, enfin même en 300 avant Jésus-Christ, vous que savez qu'Alexandre le Grand a conquis le royaume de Perse. Hein, vous avez ça dans le film 300, je crois. Où, si vous regardez là, il y en a qui sont plus culture Netflix que culture biblique. Donc je parle pour les deux cultures. Les phalanges grecques attaquent Darius, qui était la Perse en fait. Et donc Alexandre le Grand se fait un grand royaume, hein, vous le connaissez, vous en avez sûrement entendu parler. Et du coup, la Judée est tombée sous l'escarcelle de la Grèce par Alexandre. Bon, Alexandre n'a pas vécu longtemps. Son royaume a été partagé en quatre parties. Une partie, c'est les Grecs syriens, les Séleucides. Et pendant de l'an 300 à l'an 170 à peu près, les Juifs et les Grecs ont vécu en paix, sachant que les Grecs étaient très tolérants, donc les Juifs pouvaient pratiquer leur religion tranquillement, sans grand souci. Et ce qui s'est passé, devait se passer, beaucoup de Juifs se sont hellénisés. Sachant qu'est-ce que ça veut dire hellénisés, c'est qu'ils ont abandonné leur coutume de Thoraïque, c'est-à-dire de servir les commandements d'Éternel, le Shabbat, et ils sont devenus plus en plus grecs, en disant bah, c'est bien les Grecs et tout. Donc en 170, ils ont commencé à construire des gymnases à Jérusalem, où tout le monde courait tout nu. C'était bien. Il commençait à y avoir des orgies. Il commençait à avoir de l'idolâtrie. L'idolâtrie à tel point qu'il commençait à avoir des statues de Zeus un peu partout dans Jérusalem. Alors vous pouvez comprendre que ça ne plaisait pas trop aux sacrificateurs de l'époque. Et il y avait deux tendances. Il y avait la tendance des juifs hellénistes. D'ailleurs, on le voit encore dans les Actes des apôtres en parlant des hellénistes. Ça existait encore. Et les juifs qui voulaient rester fidèles au commandement de Dieu. Ça, c'était l'assimilation pacifique d'Israël, quoi. L'assimilation pacifique. Avant, je voulais lire, continuer mon histoire, je voulais lire dans Romains 12. Vous connaissez tous Romains 12. Hein. Je suis sûr que vous le lisez tous les jours. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je cite ce verset comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe. Ne vous conformez pas au monde présent. Que s'est-il passé à l'époque ? Les Juifs helléniques se sont conformés au monde présent de l'époque. Est arrivé un moment, un roi qui s'appelait Antiochus Épiphane IV, c'était le quatrième, qui lui a dit tout d'un coup, bon, les Juifs, ils sont bien gentils, mais maintenant, leurs histoires de Torah, leurs histoires de temple, leurs histoires de circoncision, leurs histoires de... Bon, c'est bon, quoi. Donc on va interdire tout ça. Donc il a interdit la Torah, la lecture de la Torah, il a même détruit. Ils allaient de village en village dans les synagogues, ils détruisaient les rouleaux de la Torah. Il a interdit la circoncision. Celui qui se faisait prendre à circoncire son enfant, eh ben, on tuait la mère et l'enfant. Comme ça, on était sûr qu'il ne recommencerait pas. Le temple a été profané. Donc, ils sont venus. Ils ont volé tout l'or, y compris le chandelier, d'ailleurs. Tout l'or, l'étape de proposition et tout ça. Il n'y avait plus l'arche de l'Alliance. Elle avait déjà été volée à l'époque de Babylone. Donc, tout ce qui pouvait avoir de la valeur, ça a été emmené en Grèce. Et à la place, on a mis la statue de Zeus, Zeus Olympien, dans le temple, dans le lieu très saint. Et on a sacrifié un porc sur l'autel des holocaustes. Et on a massacré un peu tout le monde, parce que de toute façon, il fallait... Et puis ceux qu'on n'a pas massacrés, on les a emmenés en esclavage. Comme ça, on était sûr que c'était rentable. Voilà. Je situe le débat. Et bon, ça, c'est à Jérusalem, hein, mais il y a Judée, c'est grand, il y a des petits villages partout. Et en fait, ils ont fait passer des émissaires dans tous les villages à l'époque du solstice d'hiver, en l'honneur du dieu Mitra et de la déesse Ishtar. Donc la déesse Ishtar, c'est la déesse de la fertilité, et le dieu Mitra, c'est le dieu soleil. Il fallait que tous les juifs qui sont dans chaque village sacrifient un porc à ces dieux-là. C'était le 25 décembre. Le 25 décembre, vous savez ce que c'est maintenant, mais bon, je vais pas. Il fallait faire ça. Parce que c'était la mythologie grecque. C'était le solstice d'hiver. C'était à ce moment-là. Pourquoi Ishtar? Parce que c'est à partir de là que la déesse devient fertile, puisque c'est le printemps qui arrive. Pourquoi le soleil? Parce que c'est à partir de là que le soleil, les jours rallongent. Donc c'est la victoire du soleil sur les ténèbres. Ça, je vous donne l'explication grecque. Et ben là, il y a un homme, c'est dans une petite ville qui s'appelait Mévéine. Il y a un sacrificateur qui était parent du grand sacrificateur de Jérusalem qui avait été tué entre-temps. Et qui lui, non. J'ai pas envie de sacrifier un porc à ces divinités-là. Et là, il y a un juif qui est venu, qui a dit, bah, si tu veux pas le faire, moi je vais le faire, parce que moi, ça me dérange pas. Et là, le sacrificateur a vu rouge. Il a tué, il a égorgé le juif au lieu d'égorger le porc. Mais en plus, il a égorgé tous les Grecs, les envoyés du roi, pour en disant, bon, ça suffit maintenant, revenez à l'Éternel. Et c'est le commencement de la révolte des Asmonéens. Donc il a dit à ses fils, il avait 5 fils, ce monsieur, il a dit à ses fils, bon, ben maintenant, puisqu'on a fait ça, ça ne va pas être terrible, il y a la police qui va arriver, hein, on va être attrapé par la brigade. Donc on va dans les montagnes de Judée, on va se cacher et on soulève une armée. Donc tous les Juifs qui étaient fidèles à Dieu l'ont rejoint dans les montagnes, ils étaient 3000. Et bon, bien sûr, vous pouvez constater que ça n'avait pas trop plu aux Grecs. Hein. C'est encore les Juifs, c'est toujours les mêmes. Hein. Ils sont toujours en train de se révolter. Ça n'a pas trop plu aux Grecs. Et ils ont dit, donc ils ont envoyé une armée au début. Petite armée, en pensant qu'on allait mater tous ces petits gens-là. Que c'était une petite rébellion, comme il y en avait des dizaines dans le royaume. Donc ils ont envoyé 5000 hommes pour mater l'armée. Le chef de l'armée s'appelait Judas. Et ben Judas, voyant les phalanges grecques, vous connaissez les phalanges grecques, donc c'est des boucliers avec des lances de 5 mètres de long, il dit, ben ceux-là, ils savent manœuvrer dans les plaines, mais nous, on va l'attendre dans les montagnes, parce que dans les montagnes, ils ne peuvent pas être en formation. Et par une stratégie, alors certains diront venant de lui, d'autres diront venant de Dieu, contre toute attente, les 3000 hommes ont battu les 5000 phalanges grecques et les ont défaits à Emmaüs. Vous connaissez Emmaüs? C'est un village, c'est pas l'abbé Pierre, hein. C'est un village d'Israël. Et la première bataille a été une victoire. Ça a encouragé d'autres juifs à rejoindre son camp. Il y a eu une deuxième bataille. Là, ils ont envoyé 60 000 hommes avec des cavaliers. Il y avait 60 000 hommes et 5 000 cavaliers grecs. En face, il y avait 10 000 juifs, donc ils avaient quand même grossi un peu. Et contre toute attente, ce sont les juifs qui ont gagné. Alors là, Antiochus Épiphane lui-même s'est fâché. Il a envoyé 100 000 hommes, phalange grecque, avec 32 éléphants et 10 000 cavaliers. Là, c'était la terreur chez les Juifs, parce que le sol tremblait. Vous connaissez, bon, je vais refaire encore culture Netflix, pour ceux qui ont la culture Netflix, la dernière grande bataille des seigneurs des anneaux, où il y a les éléphants et tout ça, bah, c'était à peu près la même chose. En face, 15 000 Juifs, contre 120 000 personnes. Contre toute attente, les Juifs n'ont pas gagné, mais les Grecs n'ont pas gagné non plus. Les Juifs se sont enfuis dans les montagnes, parce que là, les éléphants ne pouvaient pas. Et il y a eu un statu quo, parce que là, franchement, c'était disproportionné. Mais il s'est passé un miracle, c'est que dans l'autre partie du royaume d'Antiochus, il y a un pays qui a attaqué. Et donc, il a fallu qu'il recule son armée, qu'il reprenne son armée. Et il va dire, bon, on va s'occuper des Juifs après. Et il est reparti dans son pays pour mater une autre rébellion qui était beaucoup plus grave et beaucoup plus vitale pour lui. Donc, statu quo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs? Donc, ils ont repris Jérusalem. Ils ont repris le temple qui avait été profané. Ils avaient vu qu'il y avait des herbes qui avaient poussé, que tout était brûlés, sans dessus dessous, ils ont dit, bah, allez, prenons courage, restaurons le temple de Dieu, restaurons ce temple. Donc bien sûr, il n'y avait plus la menorah, donc ils ont refait une menorah en or, ils ont ramené les ustensiles, les tables de proposition, l'autel ayant été profané, ils l'ont démoli, ils ont mis les pierres de côté, en attendant de savoir quoi en faire, ils ont reconstruit un autel et ils ont sacrifié l'honneur de l'Éternel. Et bon, pour la menorah, il devait l'allumer. Vous savez que cette menorah brûle nuit et jour. Et ben, il n'y avait plus d'huile, puisque l'huile avait été souillée. Il n'y avait plus rien, de toute façon, dans le temple. Et ils ont cherché dans tous les recoins du temple. Et ils ont trouvé une petite fiole. Enfin, pas une fiole, mais on va dire une petite jarre de ça, là, à peu près, de, on va dire, 1 demi-litre. Et c'était de l'huile sainte qui n'avait pas été touchée. Donc il dit, bah ouais, cette huile, on va la mettre dans la menorah, donc dans les 7. Tu as la photo de la menorah, David? Vous savez ce que c'est qu'une menorah? Parce que moi, j'ai ma culture à moi, qui n'est pas Netflix, mais voilà. La menorah, c'est ça, hein, c'est le symbole de l'État d'Israël, c'est ce qu'il y avait dans le temple. Donc il y avait 7 lampes à huile au-dessus. Et donc, elle devait brûler tout le jour et nuit dans le temple. Et donc, ils ont rempli ce truc, toc, 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 avec 1 demi-litre d'huile. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'huile dans chaque réservoir. Et en fait, cette petite jarre, ça devait servir pour une journée. La menorah devait briller pour une journée, quoi, c'est-à-dire à peine une journée. Donc, ils se disent, bon, on va quand même l'allumer, puisque c'est aujourd'hui qu'on dédicace, qu'on ranouka le temple. On va allumer cette jarre. Et contre toute attente, comme il fallait 8 jours pour refaire de l'huile consacrée et sanctifiée par les Kohanim, contre toute attente, la menorah a brillé nuit et jour durant 8 jours. Le temps de pouvoir remettre de la nouvelle huile, le temps que l'huile a été consacrée. Et voilà, voilà le miracle de Hanouka. C'est pour ça que les Juifs, maintenant, font la fête de la lumière. C'est en l'honneur de ce temple. Donc, un an, jour pour jour, quasiment, après avoir été souillé, le temple a été redédicacé, resanctifié, restauré, avec l'aide de Dieu, puisque pendant 8 jours, la menorah devait briller. Vous savez pourquoi elle devait briller pendant 8 jours ? C'est que pendant ces temps-là, ils ont fait la fête des tabernacles. Parce que quand ils n'avaient pas le droit de la faire, cette fête-là, Mais vous avez un mois de délai pour la faire. Donc, comme c'était un mois après la fête, ils ont fait la fête de Sukkot et la fête de Hanouka. Enfin, Hanouka, ce n'était pas encore une fête. Ils ont profité d'avoir retrouvé ce temple pour refaire cette fête. Voilà l'historique. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, ça, tout ça, c'est du folklore hébraïque. Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça nous parle à nous, chrétiens ? On va passer aux choses sérieuses. Déjà, on peut lire 1 Corinthiens 3, 16. Alors, la Hanouka, je vais vous montrer ce que c'est. David, tu peux montrer les photos des Hanouka. Voilà une Hanouka. Alors, autant il y a 7 branches sur la menorah, sur la Hanouka, il y en a combien ? Vous savez compter combien il y a de branches ? Enfin, là, il n'y a pas de branches, mais il y a combien il y a de réservoirs ? 9. 9, en fait, c'est 8 plus 1. Vous en avez un qui est au-dessus des autres. Celui qui est au-dessus des autres s'appelle le témoin, le Shemesh, Shamash. C'est le témoin, c'est la première lumière qui est venue. C'est la fiole d'huile qui a servi pour toutes les autres lumières. Et après, les 8 lumières, pourquoi 8 lumières ? Parce que la menorah a brûlé miraculeusement pendant 8 jours. Donc les Juifs, tous les jours, ils allument une lumière pendant 8 jours et la fête de Hanouka dure 8 jours. Là, on est à la quatrième ce soir. Quatrième lumière, on en a fait la moitié déjà. Donc voilà. Alors les Hanoukias, il y a toutes sortes. Hein. Tu peux en montrer une autre aussi. Celle qu'on a vue en Israël. Hein. Ils ne sont pas non plus... Donc ça, c'était au bar. Mais il faut quand même respecter les traditions. Donc au bar, ils ont rallumé celle-là. C'était sympa. Voilà. Donc, vous voyez, ils ne sont pas non plus... ils ne sont pas religieux. Quoi. ils sont pas... Donc, on va lire dans 1 Corinthiens 3, 16. Vous allez comprendre un peu où là je veux en venir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je remets ça dans une version hébraïque. Ne savez-vous pas que vous êtes le Beth Hamikdash, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, et que la menorah de Dieu habite en vous. La menorah éclairée, bien sûr, hein, pas éteinte. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Saint, ça veut dire quoi ? Mis à part, séparé. Un autre passage, 1 Corinthiens 6, c'est toujours dans le même livre, c'est pas très loin, dans la même lettre. Au verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même ? Car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, qu'est-ce que nous dit Hanouka ? Hanouka vous dit aujourd'hui, consacrez votre vie. Ça veut dire consécration, le mot hébreu. Reconsacrez votre vie. Faites un retour, je parle pour moi, hein. Faites un retour sur vous-même et regardez dans quel état est votre temple. Dans quel état est le temple de Dieu ? Vous êtes le temple de Dieu, c'est ce que j'ai lu. Est-ce qu'il y a des arbustes qui ont poussé ? Est-ce qu'il y a un Zeus olympien qui est au lieu très saint? Est-ce que la menorah est éteinte? Est-ce que les pains de proposition sont plus là? Ou est-ce que tout est éclairé et que le lieu très saint est glorieux? Que nous dit Hanouka? Il nous parle d'autel. Vous pouvez le lire, hein, que dans 1 Roi 18, 30, 32, vous pourrez le lire. Élie, le prophète Élie, répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Le prophète Élie répara, alors c'est pas l'histoire de Hanouka, ça c'est avant. Le prophète Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Juda Maccabée et ses troupes ont pas réparé, mais ils ont reconstruit l'autel de l'Éternel qui avait été souillé. Qu'est-ce que l'autel de l'Éternel dans nos vies? Qu'est-ce que l'autel de l'Éternel dans nos vies? Ben, il y en a plusieurs. Et à tous les niveaux. Il y a mon autel personnel, ma vie de prière avec Dieu, ma relation avec Dieu, mon culte personnel avec Dieu. Alors quand je dis culte personnel, c'est ma lecture de la parole, c'est mes temps de prière, c'est pas forcément quelque chose de très religieux, hein, c'est pas, c'est ma communion avec Dieu. Après, il y a l'autel familial, c'est dans le couple, dans la famille, quelle est notre communion avec Dieu. Après, il y a l'autel de Persan, ici. Quel est notre autel, quelle est notre communion avec Dieu en commun? Bien sûr que nous avons notre autel, mais il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile, on parle de huile là aussi, parce que les menorahs, ça marche à l'huile, c'est comme l'huile précieuse qui descend de la montagne, de l'Hermon, et qui va sur les montagnes de Sion, là où il y a le temple. À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà l'autel de Persan. Ce n'est pas de rencontrer Dieu ici, comme si Dieu vous attendait dans le lieu très saint, mais c'est de ramener Dieu en nous. D'ailleurs, Emmanuel, le prénom, on dit c'est Dieu avec nous. Vous savez, ça veut dire Dieu avec nous, c'est ce qu'on nous a dit. En fait, c'est plus que ça en hébreu, c'est Dieu en nous. Dieu en nous. Jésus est Dieu en nous. Nous ramenons, enfin, j'espère pour vous que votre autel est allumé et que tous les jours vous avez Jésus en vous, Dieu en vous. Et quand on vient ici, on se rassemble et on fait un grand feu. On fait un grand feu où on adore le Seigneur ensemble. Et je me réjouis à chaque fois que je viens ici, comme David se réjouissait quand il allait dans le Beth Amikdash, de pouvoir prier Dieu et d'honorer Dieu et de louer Dieu ensemble. Amen. Ça, c'est l'autel de Persan. Après, il y a l'autel de l'Église, en général avec un grand E. Là, c'est nos frères et sœurs ici, mais les frères de l'Église de Toulouse, les frères de l'Église universelle, ce qu'on appelle l'Église universelle. Et après, cet autel-là, il y a l'autel du pays aussi, de la nation. Tout à l'heure, j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu avais, le chant, c'était Jésus est Seigneur de cette nation. Amen. Sauf que je ne l'ai pas chanté. Parce que, pour moi, Jésus n'est pas le Seigneur de cette nation. Spirituellement, il l'est, mais le cœur de cette nation est loin de Dieu. Le cœur de cette nation est grec. Le cœur de cette nation n'honore plus Dieu. Il l'honore peut-être des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Et nous, qui sommes peut-être cette poignée, peut-être 3000 contre 120 000, avec des éléphants partout, et il y en a des éléphants en France, hein. Je ne parle pas du Parti socialiste. Il y a des éléphants, des autorités, mais ces autorités-là sont pas, c'est pas les hommes. Hein. Je ne vais pas parler du gouvernement, je ne vais pas parler des partis politiques, je ne vais pas parler de rien du tout. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les nominations qui sont sur nos pays. Alors que nous dire Hanouka ? Il nous dit « Révoltez-vous ». Alors bien sûr, c'est enregistré, hein, donc je ne vais pas dire « Bon, allez sortez, allez prendre des armes et allez casser les CRS, allez prendre l'Elysée », c'est pas ça que je vous dis. Révoltez-vous d'une sainte colère contre ce qui se passe à la fois dans notre pays, mais à la fois dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Si vous n'en êtes pas sûr, lisez Jean 8, vous lisez Matthieu 5. D'ailleurs, on va le lire. C'est trop important. On va lire Jean. Allez, on va pas trop bouger. Jean chapitre 1, versets 4 et 5. Ça, c'est le shemash. Shamash, la première lampe. Là, c'est la bouteille d'Arak. C'est la première lampe qui est au-dessus de tous, qui est au-dessus de nous, et c'est celle qui va nous allumer. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin et rend témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Là, il parle de Jean le Baptiste. Hein. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Amen. On peut lire dans Ésaïe 9. J'ai dit qu'on allait rester dans Jean, mais non, c'est faux. Ésaïe 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie, elle se réjouit devant toi de la joie des moissons. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, qui frappait le dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme la journée de Madian. Car toutes chaussures que l'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Pour être dévoré par le feu. Car, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous connaissez ce passage ? C'est le passage de Noël. Un fils nous est donné. C'est Jésus. Il parle de la venue du Messie. Matthieu 5. Au verset 13. Car vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour établir. En effet, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Enfin, j'espère. Vous l'êtes ? Ou c'est éteint ? C'est allumé ou c'est éteint ? Allô ? Tu peux mettre la dernière photo, celle en noir et blanc. Qu'est-ce que ça veut dire être la lumière du monde ? Est-ce qu'on la met sous le boisseau, la lumière ? Vous connaissez tous cette photo ? Terrible. Elle est du Yad Vashem d'Israël. Hanouka, en 1930, dans les années 33. Hitler vient de prendre le pouvoir. Et là, il y a tout un symbole. Vous savez que quand on fête la fête de Hanouka, le chandelier est donc à 9 branches. Hein, en fait, normalement, enfin, c'est pas normalement, il faut le faire. On doit le faire à la porte de sa maison. On ouvre la porte, vous avez, et on doit poser la Hanouka dehors et faire la cérémonie de l'allumage et lumière à la porte de sa maison, pour ceux qui sont en maison, bien sûr. Sinon, si c'était en appartement, c'est de mettre la Hanouka à ta fenêtre et de faire la cérémonie à la fenêtre pour que tout le monde dans la rue puisse le voir, que tu fais Hanouka. Et là, on peut voir le courage. Je ne sais pas ce qui est devenu de cette famille, des Juifs, qui, malgré des voisins sympathiques, beaucoup plus sympathiques que les nôtres d'ailleurs, hein, est-ce qu'on est autant en risque à cette époque-là ? Non. Enfin, je ne pense pas encore. Peut-être un jour ça viendra, mais pour l'instant, on peut encore faire ce genre de choses. Eux, déjà, ça était déjà chaud. Hein. Mais ils le faisaient. Ils le faisaient en l'honneur de l'Éternel. Vous êtes la lumière du monde. Allume-t-on une lumière pour la mettre sous le boisseau ? Non, on la met sur le chandelier. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Déjà, ça brille pour ceux qui sont dans la maison. Mais aussi, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien sûr, l'image de la bougie, c'est une image. Mais quelle est notre bougie ? C'est nos œuvres bonnes en Jésus. C'est notre témoignage en Jésus. Donc Hanouka nous dit, consacrez votre vie. Hanouka nous dit, révoltez-vous d'une sainte colère contre l'esprit de ce monde et l'idolâtrie où on veut nous faire taire. Hanouka, c'est rétablir l'autel de Dieu, aussi bien notre autel, d'abord commencer par nous, hein, notre autel personnel, et puis après de monter d'hôtel en hôtel jusqu'à l'hôtel de la nation. Hanouka, c'est aimer Dieu et vivre selon le plan de Dieu. Hanouka, ce n'est pas de faire de compromis. Matathias, le sacrificateur qui a pris les armes et qui a été l'objet de la révolte, qui a été le déclencheur de la révolte, il ne voulait pas de compromis, c'est-à-dire il ne voulait pas... Ah ouais, mais c'est pas très grave, tu sacrifies, mais tu sais qu'une idole, de toute façon, l'idole, c'est pas une idole, c'est un truc en pierre. on peut s'arranger avec Dieu, quoi. C'est pas très grave. Un porc, c'est un porc, hein. C'est pas très grave. Ishtar, c'est pas très grave, c'est une déesse, mais j'y crois pas. Mithras, c'est pas très grave. Rien n'est grave. Et c'est comme ça que l'on s'éloigne de la vérité biblique. On essaye de faire des compromis. Ah, là, je vais peut-être en choquer plus d'un. Ouais, si on mettait à la place d'Ishtar et de Mithras, on mettrait le petit Jésus dans la crèche. C'est pas très grave. C'est le 25 décembre, mais c'est pas très grave. Et puis si on mettait un sapin de Noël à la place d'un arbre où on mettait des cadeaux, parce qu'à l'époque, on sacrifiait un porc, mais on s'offrait des cadeaux et on faisait une orgie. Je vous l'explique. Et généralement, le cadeau était posé sous un arbre vert. C'est pas très grave. Alors je ne vais pas vous juger, je ne vais pas me juger sur les fêtes, parce qu'il est marqué dans la Bible que personne ne vous juge sur une fête. Mais je suis là aussi pour établir des vérités et les vérités de la Bible. Pourquoi petit Jésus? Un bébé, c'est tellement inoffensif. Est-ce que Jésus est encore petit? En fait, les chrétiens ne devraient pas célébrer la naissance de Jésus. Ils devraient célébrer sa mort et sa résurrection. Amen. Est-ce que le petit Jésus, bah oui, le petit Jésus, oui. Soit il est dans les bras de sa mère, soit il est dans la crèche. Oh, c'est joli, hein, c'est une belle histoire. C'est arrivé, hein. Je ne vous dis pas que ce n'est pas arrivé. Par contre, ce n'est pas arrivé à Noël. C'est arrivé, on a les preuves, pendant la fête des tabernacles, au mois d'octobre. Je vous expliquerai les preuves, je les ai trouvées dans la Bible. Enfin, on les a trouvées dans la Bible. Mais bon, voilà, ça c'était un petit aparté. Hanouka, c'est la fête de la lumière. Que votre lumière brille parmi tous les hommes. Ne soyez sans compromis. Soyez sans compromis. Hanouka, c'est la purification du temple. Que votre corps, que votre esprit, que votre âme soient lavés du péché par Yeshua, notre Seigneur. Lavé, non pas l'extérieur comme le faisaient les pharisiens, mais l'intérieur. Que le lieu saint, je vous avais prêché déjà que vous étiez le tabernacle, que le lieu saint, que votre vie sanctifiée soit lavée dans le Seigneur. Consacrez-vous, reconsacrez-vous. Je n'ai pas dit que tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, moi y compris, je vous l'avoue, je vous le confesse, le temple, il n'était pas très beau, hein. Il y avait un peu de poussière, hein. Il y avait même des trucs, qui ne devaient pas y être. Consacrez votre vie, redédicacez votre vie. D'autant plus que on revit les jours qu'ont vécu le royaume de Juda. Il va y arriver des moments difficile pour ce monde. Mais il faudra que l'Église soit éclairée, que le chandelier de l'Église soit allumé. Et non plus dans le compromis, non plus dans les 2000 ans d'histoire qui l'ont complètement perdu dans des méandres idolâtres, on peut le dire comme ça, dans des méandres idolâtres. Il faudra que l'Église retrouve la lumière de la menorah, la lumière du Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu pour nous, chacun, qu'on soit éclairé, que notre cœur soit éclairé, que l'Église soit éclairée. Et Dieu le fera parce que je sais que Dieu est fidèle. Ce n'est pas moi qui vais éclairer l'Église, hein. C'est l'Église qui. Saint-Esprit, il est assez puissant. Et dernière chose que je voulais dire pour Hanouka. Vous avez vu les disproportions de force qu'il y avait entre l'armée juive des Maccabées et l'armée grecque. Bon, allez vous battre contre 100 000 hommes et 32 éléphants, alors que vous êtes 10 000, 15 000. D'ailleurs, il y a un des frères de Judas Maccabée qui est mort, parce qu'il a été tué un éléphant. Et comme l'éléphant a été tué, il lui est tombé dessus. Il a été écrasé par l'éléphant. Bon, c'est un des frères d'un des généraux. Mais sortez de Babylone, mon peuple. Sortez de Babylone. Que dit Babylone ? Babylone dit l'union fait la force. Vous l'avez entendu ce proverbe, l'union fait la force. Or c'est vrai, l'unité fait la force. Ça c'est ce que dit Jésus. L'unité fait la force. Mais le plus grand nombre n'a jamais fait la force. Vous pouvez avoir raison seul contre 10 000. Vous pouvez avoir raison 10 contre 100 000. Et Dieu ne demande pas d'être 100 000 contre 100 000. D'ailleurs, Judas Maccabée, au moment de la dernière bataille, il a dit, ils se sont réfugiés à côté du tombeau de Samuel, dans les montagnes. Ils ont lu la Torah, ils se sont humiliés. Et Judas, il a dit à ses hommes, ils entendaient le sol trembler hein, quand même, ils ont dit, n'ayez pas peur, on va respecter la Torah. Si quelqu'un est marié, est fiancé, qui ne s'est pas marié, qu'il reste là. Si quelqu'un a peur, qu'il reste là. Si quelqu'un a acheté une maison ou un champ et qu'il n'a pas encore goûté de ses fruits, il reste là. Et à chaque fois, les gens partaient. Ils étaient déjà en sous-effectif, mais en plus, Judas, vous connaissez aussi l'histoire de Gédéon, en disant que voilà, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop nombreux, et puis il se retrouve que 300 contre je ne sais plus combien. Pour Dieu, la quantité n'a pas d'importance. Parce que le monde vous dit, plus on est nombreux, plus on gagne. La Bible vous dit, ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Gardez ça en tête, parce qu'il y a aussi des fois des dérives. On pense que plus il y a d'intercesseurs, plus le Seigneur va nous écouter. Le Seigneur, il dit une chose. Voici, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Un seul suffit. Il n'y a pas besoin d'être 10 000. Un seul suffit. Un qui se révolte avec ses 5 fils, ça suffit pour changer l'histoire d'Israël. 12 personnes ont changé l'histoire du monde aussi. Bien sûr, ils étaient disciples et apôtres de Yeshua, le Messie. Alors bien sûr, ce n'était pas eux. Hein. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Bien sûr qu'il y a eu le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui a éclairé. Voilà ce que je voulais partager. Ni par puissance, ni par force. Voilà le message de Hanouka. Vous êtes peut-être faible, vous êtes peut-être... Et il y en a qui disent dans cette église, ben moi, le Saint-Esprit, j'ai qu'une petite fiole. Rien du tout. Je suis faible. Et vous savez que cette petite fiole, elle a allumé la menorah pendant 8 jours. Bien sûr, soyez remplis de l'Esprit. Mais chacun va avec la force qu'il a. Allez avec la force que vous avez. Mais soyez sans compromis. Soyez la lumière du monde. Amen. On peut prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous avons un grand Dieu, Seigneur, qui nous aime et qui nous accompagne. Et nous voulons vraiment être renouvelés dans notre intelligence, Seigneur, afin de ne pas nous conformer à l'esprit de ce monde, mais de pouvoir avoir la force de lutter et de rétablir les autels qui ont été détruits en France, dans nos églises, dans nos familles et dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons purifier le temple, notre temple, Seigneur, chacun personnellement, Seigneur. Le temple de notre corps, le temple de nos pensées. Oui, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Que cette menorah brille à l'intérieur du temple, que la lumière de Jésus le Messie brille à l'intérieur de nous, Seigneur, afin que nous soyons éclairés par ton Esprit Saint, Seigneur, que nous soyons éclairés, que nous soyons convaincus de péché, de jugement, de justice, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu consolateur, Seigneur. Tu es un Dieu qui nous fortifie, Seigneur, qui nous vraiment nous éclaire en toutes choses. Et je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ton esprit, Seigneur, que nous soyons remplis de ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons des lumières du monde, que nous soyons sans crainte, parce que tu es avec nous, Seigneur. Que nous rétablissions tes autels, Seigneur, de partout où nous passons. Que nous soyons zélés, Seigneur, que n'ayons pas peur de tout ce qui va se dresser contre nous. Peut-être que des armées nombreuses, des éléphants, des Goliaths, je ne sais, se dresseront contre nous, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui en qui nous avons cru, Yeshua, le Messie. Je te remercie, Seigneur, et je prie pour chacun de mes frères et sœurs qu'ils soient renouvelés, Seigneur, dans leur intelligence, qu'ils soient vraiment... Qu'ils puissent vivre cette Hanouka, Seigneur, cette fête de Hanouka, Seigneur, cette fête de la lumière, que cette lumière brille dans chacun de nos cœurs ici présents. Oui, merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que c'est en toi que nous nous confions. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon.